des musiques.
On y va, c'est parti.
Des jingles.
Ah, ça a déjà commencé.
Du rire.
On est à l'hôpital central, ambulance internationale.
C'est Roundup, tous les samedis et dimanches à 13h20, heure de Kinshasa.
Bien, c'est parti. Alors, vous êtes parent et vous avez un enfant paresseux. Celui-ci ne sait rien faire d'autre que de rester assis dans un coin en train de se prélasser, de passer son temps à des choses futiles. Et chaque fois que vous l'imposez un travail, bah, il se met à bouder. Comment faire pour l'aider à changer de comportement? Nous avons en ligne Isidore Bamanaï, éducateur à la vie. Vous avez des questions, des réactions, composez le 081-890-63-94. Isidore Bamanaï, bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour un enfant paresseux qui veut rien faire, comment faut-il le ménager?
Oui, merci pour la question. Je voudrais aussi vous dire toute ma joie de vous retrouver au micro et de retrouver aussi les auditeurs de la radio au Capi.
Merci.
M'ayant été soumis à analyser cette question avec vous.
Oui.
J'ai consulté, comme d'habitude, de mon bouquin de Maurice Thiesch, où on parle des enfants en problème.
Oui.
Et parmi les enfants en problème, à un caractère difficile, il y a aussi un enfant paresseux. Maurice Thiesch propose que pour aider un enfant qui est paresseux, il faut d'abord chercher quelles sont les causes de sa paresse. Et il aligne les causes de deux ordres. Il y a les causes physiologiques et les causes psychologiques. Dans les causes physiologiques, il parle principalement de la maladie. Si l'enfant a des cas de maladie, et si l'enfant a un état de santé général qui n'est pas bon, il lui est difficile de fournir des efforts, il lui est difficile de se concentrer et de travailler comme on lui le demande. Et dans les maladies, il souligne par exemple un enfant qui souffre d'une hépatite, ou un enfant qui souffre d'alcalose, c'est-à-dire une insuffisance d'oxygène.
Oui.
Cette insuffisance d'oxygène ne lui amène pas la vitalité qu'il faut, la vitalité sur le plan mental et sur le plan physique. Et cet enfant-là, s'il se concentre pour fournir des efforts, il se fatigue tout de suite et il est même tenté d'abandonner. Et aussi, si un enfant a une alimentation insuffisante ou une alimentation non équilibrée,
oui.
Elle est soit insuffisante, soit elle est surchargée de nourriture, son corps ne reçoit pas les éléments qu'il faut ou il en reçoit trop, c'est pas le transformer en énergie dont il a besoin pour fournir des efforts. En ce moment-là, l'enfant peut présenter des signes de paresse ou des signes de refus de travail. C'est aussi, par exemple, un enfant qui a une thyroïde déficiente. La glande thyroïde, c'est elle qui aide vraiment à la croissance physiologique et même à la croissance psychique de l'enfant. Si cette glande ne fonctionne pas comme il faut, dû par exemple à une certaine alimentation, s'il y a une alimentation on consomme beaucoup plus de manioc, et si le manioc est consommé cru, il n'a pas été trempé pendant 3 jours pour éliminer un peu l'acide qu'il y a là-dedans,
oui.
Cet acide va empêcher le bon fonctionnement de la glande thyroïde, et la croissance de l'enfant va souffrir, et cela entraîne chez lui moins d'efforts à fournir, c'est ainsi que quand il se trouve devant un travail, il laisse tomber les bras. C'est aussi, par exemple, une dysfonction hypophysaire. Vous savez, dans notre cerveau, il y a deux parties principales. Il y a l'hypothalamus, il y a l'hypophyse. C'est l'hypophyse qui commande tout ce que nous avons comme mouvement à faire. Et quand l'hypophyse ne fonctionne pas comme il faut, pour cet enfant-là, la concentration diminue et l'effort physique aussi devient pénible. C'est ainsi qu'il ne peut pas fournir assez d'efforts et rendre un travail qu'il peut rendre. Maurice Thiesch insiste et dit qu'il n'y a pas un caractère de paresse qui est vicieux, mais c'est dû souvent à l'environnement de l'enfant. Si les parents sont attentifs à l'environnement de l'enfant, ils peuvent facilement déceler ce qui cause la paresse chez lui et trouver les moyens de l'aider. Si ce sont des causes physiologiques, comme nous les avons évoquées tout à l'heure, je pense qu'il y a lieu de soit d'équilibrer l'alimentation, soit de faire soigner l'enfant s'il a une hépatite, que soit aussi un problème de myopie. Et je crois que si on découvre toutes ces causes-là, on peut bien commencer à aider l'enfant au lieu de le gronder, au lieu de lui taper dessus, au lieu de le traiter de vaurien ou de fainéant, ce qui va davantage l'enfoncer dans sa situation.
Alors par rapport
Il y a aussi,
et par rapport à la concentration mentale, un enfant, on lui donne des devoirs à domicile, il n'aime jamais faire ses devoirs à la maison, il préfère aller à regarder la télé que de faire les devoirs, et il a ses notes en désordre, ses cahiers, bon, et, vous voyez, il n'est pas ordonné, donc il ne veut pas travailler, il ne veut pas s'appliquer à l'école. Et pour un tel enfant, comment procéder pour l'aider?
Oui. Lorsque vous avez parlé des causes psychiques, je crois que nous allons les évoquer, peut-être que en les évoquant, on peut trouver un certain mécanisme pour aider un enfant comme celui-là.
Oui.
D'une manière générale, les causes psychologiques sont liées au milieu de vie de l'enfant et à l'atmosphère, à l'ambiance qui règne dans ce milieu de vie. Si nous partons de la famille, quelle est l'ambiance qui règne dans la famille? Est-ce que c'est une ambiance d'harmonie, de tranquillité? Est-ce que c'est une ambiance de respect de chacun? Est-ce une ambiance où la maison est suffisamment aérée, il y a suffisamment de l'oxygène pour bien irriguer le cerveau? Et je pense que si l'enfant aussi n'est pas très bien logé, chaque fois qu'il se réveille le matin, il a des courbatures, il a mal au cou, il reste marqué pour le reste de la journée. Et je pense qu'il lui devient difficile d'avoir une concentration parce que regarder la télé, c'est seulement une distraction.
Oui.
Donc cette ambiance de vie de l'enfant peut l'obliger à ne pas fournir beaucoup d'efforts, je voulais dire. Mais aussi si le climat dans la famille, c'est pas un climat d'entente, où les parents sont régulièrement en dispute, où le couple est en instance de divorce, ou même on a déjà divorcé, mais l'enfant vit chez un des parents, cette ambiance ne lui permet pas de rester concentré et de fournir beaucoup d'efforts. Mais c'est aussi, par exemple, l'enfant est victime d'une sévérité, le décourage. Il y a des parents qui sont très très sévères, qui, pour eux, dans leur maison, pas de moment de regarder la télévision, l'enfant revient de l'école, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il s'est reposé suffisamment, c'est tout de suite qu'on lui demande de commencer à travailler, alors qu'il vient d'avoir accompli le travail au niveau de l'école où on lui a demandé beaucoup d'attention, où il a réfléchi pour résoudre des problèmes de mathématiques ou de physique. Et quand il revient à la maison, qu'on lui demande tout de suite de commencer à faire son devoir, je crois que c'est mal placé pour les parents. C'est une sévérité inutile.
Il faut les laisser se reposer un peu,
oui. Oui, c'est une sévérité inutile qui n'aide pas l'enfant à bien organiser sa journée, parce que l'enfant, après avoir fourni de l'effort, il a besoin de repos. Il a besoin peut-être de regarder aussi la télévision. Il a besoin peut-être de jouer un peu avec les autres enfants. Mais alors, on va lui rappeler calmement qu'il a des devoirs qu'il a ramenés de l'école et qu'il doit le faire. Je pense que si on lui donne le temps de s'organiser, si on fait appel à son sens de responsabilité, si on lui indique l'importance des études dans sa vie, je crois que l'enfant va s'y attacher, parce que quand vous regardez un tout petit là qui a 4-5 ans, au moment où il doit commencer l'école maternelle, c'est une joie pour lui. Moi j'ai eu mon petit-fils à qui j'ai remis un petit sac pour aller à l'école, il a à peine 3 ou 4 ans, mais c'est chaque matin qu'il se réveille avec son petit sac sur le dos et qui dit à sa mère, je dois aller à l'école.
Oui.
Donc je crois qu'on doit éviter cette sévérité inutile chez les parents qui risque de donner à l'enfant l'impression qu'il vit presque dans une prison.
Bien, vous voulez participer à composer le 081-890-63-94.
La course relais de la formation sportive sur Radio Cap. Nanambala, au démarrage, passe le relais à deux de Nekabeyanga Lula, qui fonce vers le micro et le passe à Kanis Mukongo Sambui. Il fonce, et se trouve en tête à la sortie du virage où Kesson Mounoumbala attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre, et...
Victoire.
Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h, vers le Kinshasa.
Destiné, Chama Kouete nous appelle de Kananga, bonjour.
Bonjour, Jody.
Votre question?
Ma question est la suivante.
Oui.
Je vais poser à l'invité aujourd'hui, est-ce qu'il peut rallier la paresse d'un enfant en famille au manque de planification, d'une bonne politique de planification familiale? Parce que la bonne de, la politique familiale se trouve être aussi une cause de la paresse.
Merci pour la question, Isidore.
Oui, merci pour la question, mon ami. Vous avez dit Chama?
Chama Kouete.
Chama Kouete. Bon, je ne sais pas. Quand il parle de planification, je ne sais pas à quoi est-ce qu'il pense. Est-ce qu'il pense de l'espacement de naissance ou il pense de la planification des activités auxquelles même les enfants doivent se mêler au niveau d'une famille? Dans tous les deux cas, je crois que la planification a sa place dans une famille qui veut bien réussir l'éducation de ses enfants. Parce que, par exemple, si on n'a pas bien planifié les naissances, si l'enfant qui est déjà venu au monde a à peine 6 mois ou 9 mois et que sa mère attrape une autre grossesse, cet enfant n'a pas tout le temps de jouir de ce qu'il doit avoir auprès de sa mère, n'a pas tout le temps de monter sur son corps, le corps de sa mère, il n'a pas tout le temps de téter comme il voulait, et la mère étant dans une aventure d'une nouvelle grossesse qui amène des malaises, risque de créer des moments difficiles à cet enfant. Parfois même, il y a des femmes qui interrompent l'allaitement, et quand on a interrompu l'allaitement, les amis des enfants disent que l'enfant doit téter jusqu'à 2 ans.
Donc,
il va manquer des éléments nutritifs nécessaires pour la construction de son corps et pourquoi pas de son cerveau.
Et ça peut le rendre, ça peut le rendre paresseux?
Oui, ça va avoir des répercussions dans sa vie. Vous voyez, ce genre d'enfant, il souffre d'une certaine frustration et que souvent ils se sentent abandonnés par leur mère et manque d'affection. Ça atteint sérieusement son fonctionnement sur le plan psychologique. Et plus tard, c'est un enfant qui n'aura pas beaucoup de concentration. C'est un enfant qui va se sentir mal aimé et il va finir moins de fort dans sa vie. S'il parle de la planification des activités, je crois aussi que c'est valable.
Oui.
Si dans la famille, les activités ne sont pas bien planifiées, et si, par exemple, une mère qui n'a qu'une fille qui a 6 ans ou 7 ans et que la mère est tout le temps partie au marché, c'est la fille de 6 ans, de 7 ans qui devient presque la femme de ménage ou qui remplace sa mère au niveau de la famille.
Oui.
C'est là des petits garçons à surveiller, à laver, s'il y a la vaisselle, peut-être qu'on lui a déjà appris à faire la cuisine. Tout cela va peser beaucoup sur sa personne qui est encore fragile et fournir beaucoup d'efforts, surtout dans les études, ça devient un peu difficile. Mais si aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une planification, on n'a pas laissé à l'enfant le temps de se reposer, le temps de regarder la télé, le temps d'aller jouer avec les autres amis pour aérer son cerveau, je pense que cet enfant aussi aura des difficultés de concentration et même il aura un sentiment de révolte qui pourra lui faire que quand on lui demande de fournir des efforts, il fait autre chose et il se moque de ses parents.
Oui, on entend souvent dans certaines familles, les mamans disent souvent, moi, je suis ringabitindate, mais c'est comme dire à Kolea, allez, Aïmbangu. Donc, il y a un enfant qui n'aime pas l'emploi, il le fait toujours en grognant, mais quand il s'agit de manger, ben, il est le premier à venir.
Oui, moi, je pense qu'il y a un problème là, des liens qui existe entre parents et enfants. Si l'enfant se sent bien aimé par ses parents, je crois qu'il sera tout heureux de leur rendre aussi des petits services, parmi lesquels l'envoyer quelque part, acheter quelque chose ou porter un message à quelqu'un.
Oui.
Mais dans le cas contraire, si l'enfant ne se sent pas aimé dans la famille, ne se sent pas respecté. Parce que vous savez, même quand il faut envoyer l'enfant, il faut tenir compte de ce que lui est en train de faire. Et peut-être même il est en train de jouer. Pour les parents, ce n'est pas une activité intéressante, ce n'est pas une activité importante.
Oui.
Mais c'est une activité importante pour l'enfant. L'arracher de son jeu pour l'envoyer perturbe ce qu'il était en train de faire. Et si les parents n'ont pas bien négocié avec lui, l'enfant va peut-être partir en rechignant, ou il refuse, il s'en va en cours de route, il fait autre chose et puis il rentre à la maison. Mais écoutez, manger c'est plus intéressant qu'être envoyé quelque part pour remplir, pour remplir une certaine activité.
Oui.
Donc c'est naturel qu'on soit plus attiré à aller manger parce qu'on a faim. Mais aussi je pense que si l'enfant se sent bien entouré de l'affection de ses parents, il ne va pas refuser de leur rendre un petit service. Donc le problème réside là. Il faut que l'ambiance au niveau de la famille soit une ambiance où l'enfant se sent à l'aise, l'enfant sent qu'il a sa place, l'enfant sent qu'il peut faire quelque chose, l'enfant sent qu'on peut lui donner un petit temps à lui, à peut-être s'enfermer dans sa chambre, à lire ce qu'il veut lire, ou à regarder, ou à écouter la radio, et par après on va lui dire, bon, tu as assez écouté la radio, est-ce que tu ne peux pas reprendre les devoirs, ou est-ce que tu ne peux pas nous rendre un petit service, porter ces documents à tel endroit et revenir rapidement. Je crois que si on le fait de cette manière-là, avec un peu plus de gentillesse, il y a moyen que l'enfant puisse obéir facilement.
Voilà, papy Kagundi nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, papa.
On vous écoute.
Je voudrais demander à notre invité.
Oui.
La paresse, elle est synonyme d'une intelligence.
Voilà. Voilà, si la paresse est le synonyme de manque d'intelligence. Hein.
Oui, oui.
Merci pour la question. Monsieur Didier Bamanay.
Oui, merci pour la question. Je crois que ce n'est pas nécessairement un signe de manque d'intelligence. C'est plutôt un signe de manque d'intérêt ou un signe de manque de fournir des efforts pour réaliser un travail qui puisse amener des résultats escomptés. Il faut surtout voir de ce côté-là et examiner quelles sont les conditions qui entraînent la paresse chez l'enfant, comme nous les avons évoquées tout à l'heure. Si ce sont des causes physiologiques, on peut soigner l'enfant. Si ce sont des causes psychiques, il y a lieu de changer de manière de vivre dans les milieux où l'enfant est en train de vivre. Et ipso facto, on va se merveiller de voir que cet enfant-là va commencer à fournir beaucoup d'efforts. Mais aussi, si vraiment il a un quotient intellectuel qui n'est pas bien développé, ça c'est vrai que ce n'est pas tellement la paresse là.
Oui.
Il va fuir tout ce qui est au-dessus de ses capacités et il ne pourra pas fournir d'efforts pour réaliser un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui apporte des résultats escomptés.
Alors maintenant, pour les parents, quelle peut être leur part pour motiver un enfant qui est paresseux, si c'est une paresse qui n'est pas physiologique, qui n'est pas liée à une maladie par exemple, alors comment ils peuvent faire pour l'aider petit à petit à aimer travailler, à sortir de la paresse?
Oui, merci beaucoup. Je crois que nous avons examiné dans les causes ici. Une des causes, par exemple, est manque d'oxygène. Si la maison n'est pas suffisamment aérée, si l'enfant dort dans des conditions d'étouffement, je crois que son cerveau est intoxiqué, il ne respire pas suffisamment parce que le cerveau est suffisamment irrigué quand il y a un peu plus d'oxygène et un oxygène pur. Je crois que si on examine de ce côté-là, on peut améliorer le cadre dans lequel l'enfant évolue, surtout dans lequel l'enfant passe la nuit, et que le matin, qu'il puisse avoir suffisamment d'oxygène pour apporter un peu plus d'acidité dans son sang et dans ses muscles, cela va soutenir les efforts pour le reste de la journée. Mais si c'est dans les conditions psychologiques défavorables, par exemple le climat, il n'y a pas un climat d'entente dans la famille, où les parents sont régulièrement en dispute, je crois que les parents doivent regarder autour d'eux et se dire qu'entre nous deux, il y a déjà une autre personne qui existe, qui a droit à la vie, qui a droit à s'épanouir, à développer ses capacités, améliorer leur entente entre eux, et aussi essayer de cacher leurs disputes auprès des enfants, pour que les enfants ne se rendent pas compte qu'il y a vraiment entre les parents une entente qui intoxique le climat dans la famille.
Oui.
Ils améliorent aussi de ce côté-là. Ils vont se rendre compte qu'en retour, pour leur faire plaisir, l'enfant va se sentir épanoui. Et quand quelqu'un est épanoui, il est capable de concentration, il est capable de fournir un effort pour aller de l'avant.
Voilà.
Et c'est aussi, si l'enfant est déjà en train d'aller à l'école,
il
faut qu'on se demande c'est dans quelle école où il est allé, quelles sont les conditions matérielles dans cette école-là. Est-ce que la classe est suffisamment aérée? Mais aussi, quel est l'enseignant qui lui donne cours? Il y a des enfants qui ont une certaine aversion, elle vient de quoi, je ne sais pas tellement, une certaine aversion vis-à-vis de son enseignant, qui fait que chaque fois que l'enseignant est en présence de lui, l'enfant devient distrait, il ne s'intéresse pas à ce que l'enseignant dit. Donc, il faut examiner tout ça pour chercher à remédier à la situation de l'enfant qui présente des signes de paresse.
Voilà, nous parlons aujourd'hui des enfants paresseux. Comment les aider? Avec Isidore Bamanaï, éducateur à la vie. Des questions de réaction composées de 0-81-800-63-94.
C'est le rendez-vous sinué de Radio Utopie. Des chemins détournés et des infos dépistées, la détendance reliquée, et chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Utopie. Je suis Nana Bologna et Lionetto et je vous y attends.
Voilà, Isidore Bamanaï, nous allons accueillir la question de Kepa, qui nous appelle d'Mbandaka à l'équateur Mambenga. Et donc il va s'exprimer en Lingala. Kepa, bonjour.
Bonjour papa Daniel, je suis très bien dans la radio.
Merci Mingi, je suis très bien dans la
radio. Je suis très bien dans la radio. Je suis très bien dans la radio. Je suis très bien dans la radio. Je suis très bien dans la radio. Je suis très bien dans la radio. Je suis très bien dans la radio. Je suis très bien dans la radio. Je suis très bien dans la radio.
Je suis un peu plus de temps. Isidore Bamanaï, vous avez suivi? Je pense que vous comprenez bien les lingalas.
Bon, un peu. Si il est gentil, tu essayes de résumer pour moi ce qu'il y a comme fond de la question.
Voilà, Kepa dit ceci, certains parents encouragent leurs enfants à devenir paresseux. Vous voyez par exemple un enfant qui ne fait rien, la maman fait tout à sa place, elle prépare pour lui, elle lave les vêtements pour lui, et l'enfant est traité comme un petit prince qui ne fait rien à la maison. Donc c'est, pour lui, c'est la maman, les parents qui peuvent encourager les enfants à devenir paresseux.
Ah, merci, je crois que c'est une dimension importante. Les parents qui se comportent de cette manière-là, j'estime pour ma part, ils auront causé beaucoup de tort à cet enfant, parce que la vie, ce n'est pas ne rien faire. La vie, c'est se battre chaque jour, c'est réaliser des petites choses pour pouvoir améliorer les conditions de vie, de réaliser de petites choses pour participer à l'avancement de la communauté, de réaliser de petites choses pour s'épanouir soi-même, quoi. Donc cet enfant, il sera un adulte vraiment raté, parce qu'il ne va pas vivre tout le temps à côté de ses parents. Un jour, il pourra quitter sa famille, s'il a fini les études, s'il peut aller à l'université, ou si on l'a envoyé dans un internat. Je crois que cet enfant-là aura beaucoup de difficultés pour travailler et gagner sa vie. Donc les parents doivent initier leurs enfants à des petites tâches déjà au niveau de la maison, et même à les encadrer quand ils vont à l'école, ils ont des travaux à faire, ils ont des devoirs à faire à la maison. Les parents doivent y veiller, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout de suite quand l'enfant rentre, il faut que quand l'enfant rentre, qu'il mange, qu'il se repose, qu'il se réveille, et puis après qu'on lui demande de présenter les devoirs qu'il a, qu'il se mette à travailler, et même qu'on vienne voir s'il a fini le devoir. Parce que, un, c'est commencer à travailler.
Mmh.
Deux, c'est finir le devoir d'arriver au résultat. Il faut que les parents encadrent vraiment l'enfant de telle manière qu'il puisse fournir des efforts dans sa vie. Parce que la vie se fournit des efforts chaque jour. Et Gilbert qui en a dit, l'homme doit se battre. Et c'est cette philosophie-là qui est nécessaire pour toute personne.
Voilà. Merci beaucoup, Kefana Kaniso Landi, et à inviter Mabiso Isidore Bamanaï, éducateur à la vie. Bapa Babosio, Bassa Kandengiwana, Isa Malamute, Singil Abawatika, parce qu'il faut préparer Bana, Bassa Kamisala, Bango Moko, Bamessana, parce que la vie, il faut qu'on fournisse l'effort, il faut se battre, donc il faut qu'on bunda bunda yo mokopo na la vie. Voilà. Merci beaucoup. Isidore Bamanaï, éducateur à la vie intervenant depuis Bujumbura du Kasaï oriental. C'était un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau, sur les antennes de Radio Capi. Merci et à la prochaine.
Oui, merci, au revoir.